Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et de 4, Carlos Ghosn est sous le coup d'une quatrième accusation au Japon. L'ancien patron de Renault-Nissan a de nouveau été arrêté tôt ce matin, un mois après avoir été libéré sous caution. Le parquet le soupçonne cette fois d'avoir détourné de l'argent avec la complicité de l'un des distributeurs de Nissan installé à Oman, au Moyen-Orient.
Et puis à la une en France, le premier grand débat avant les élections européennes ce soir, diffusé sur France 2, sur France Inter, 12 têtes de liste en plateau. Comment faire entendre ses idées dans un temps limité? Enjeu décrypté dans un instant.
Emmanuel Macron arrive en Corse ce matin pour son dernier grand débat, perturbé par l'opposition nationaliste. Les élus qui dirigent l'île appellent à une opération île morte, une première depuis des années.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, réussir à l'école, que nous enseignent les pays étrangers? On posera la question à Nathalie Mons. Elle est professeure de sociologie à l'université Cergy-Pontoise et présidente du CNESCO, Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire.
Comment défendre les frontières de l'Union européenne? Faut-il revoir l'espace Schengen? Doit-on harmoniser la fiscalité à l'échelle de l'Europe? Peut-on imaginer un revenu minimum pour tout le monde? Ce sont quelques-unes des questions qui seront posées ce soir pour le premier grand débat télévisé avant les élections européennes du 26 mai. Débat diffusé sur France 2, à la radio également, sur France Inter, à partir de 21h avec les 12 têtes de liste en plateau. 1 minute 30 par candidat pour aborder à tour de rôle chaque question, avec un droit de relance pour préciser sa pensée ou répondre à un autre candidat. Mais il faudra être concis, pas plus de 30 secondes de réplique par débatteur. Les journalistes Alexandra Ben Saïd et Thomas Soto garderont donc un œil sur le chronomètre. Pas plus de 3h30 de débat, 12 minutes de temps de parole par candidat au total. Thomas Soto pense que cette contrainte de temps forcera les têtes de liste à aller à l'essentiel pour se faire entendre des électeurs.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en sortant de là, les téléspectateurs et les auditeurs qui auront suivi ce débat se disent, bah tiens, je crois que je commence à savoir pour qui je vais voter. Parce que finalement, voter et s'exprimer pour, et non pas être contre ou s'abstenir, dire moi ça m'intéresse pas, bah c'est quand même mieux, parce que c'est participer à la vie de la cité, même quand la cité est européenne, que c'est une très grande cité qui nous paraît un peu loin, un peu compliquée, un peu techno. Et bah, ça va être à eux de nous convaincre que oui, il faut y aller, que le 26 mai, il faut aller voter. Et puis vous savez, à 12, ils auront un temps de parole qui sera un peu plus limité que s'ils avaient été moins nombreux. Donc ils ont aussi un défi, c'est de ne pas faire trop de langue de bois, parce que la langue de bois, non seulement ça ne sert à rien, mais ça prend du temps de parole. Donc c'est à eux d'être efficaces, d'être concrets, d'être directs, d'être concis.
Thomas Soto, l'un des animateurs de ce premier débat sur les européennes, au micro de Maxence Lambrecq. Parmi les 12 têtes de liste donc pour ces élections, pas mal de nouveaux visages, de Manon Aubry pour la France Insoumise, à Jordan Bardella du Rassemblement National, en passant par le républicain François-Xavier Bellamy et le chef de file de Place Publique, Raphaël Glucksmann. Également sur les rangs, l'ex-ministre Nathalie Loiseau, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, ou encore l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon. La plupart ont publié leur programme, quelles sont leurs priorités, revues en détail avec Louise Baudet.
Sans surprise, l'immigration est la priorité du Rassemblement National. Expulsion des illégaux, réduction de l'immigration légale à un solde annuel de 10 000 arrivées. Mais le parti de Marine Le Pen n'a pas le monopole du sujet. Nicolas Dupont-Aignan veut lui aussi stopper la submersion migratoire. Pendant que les Républicains veulent rétablir définitivement les contrôles aux frontières intérieures, ne plus verser d'aide sociale automatique aux étrangers non européens et inscrire les racines judéo-chrétiennes de l'Europe dans les traités. L'Europe qui protège. Nouveau credo des macronistes via la remise à plat de l'espace Schengen, mais aussi la préférence européenne sur le plan économique et un projet de bouclier social assorti d'un salaire minimum européen. Approche sociale évidemment défendue à gauche, les communistes prônent un plan d'urgence pour les services publics. Place Publique, alliée au Parti Socialiste, veut suspendre le CETA et les nouveaux accords de libre-échange. Benoît Hamon défend un ISF européen et la France Insoumise un SMIC commun. Enfin, changer l'Europe pour sauver le climat. Ambition largement affichée, mais principalement portée par les écologistes. À noter que seules deux listes, celles de Florian Philippot et François Asselineau, proposent de quitter l'Union européenne.
À l'échelle européenne, justement, quel parti politique se présente aux élections cette année? C'est un dossier complet à retrouver en une sur franceculture.fr pour découvrir les équilibres également actuels entre les groupes politiques au Parlement européen. 8 groupes actuellement, mais cette répartition pourrait changer fin mai avec le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne doit être reportée reporter, c'est ce qu'ont demandé hier les députés britanniques à l'unisson pour une fois avec la première ministre Theresa May. Son gouvernement conservateur et l'opposition travailliste doivent par ailleurs poursuivre aujourd'hui leurs discussions pour éviter un divorce chaotique de l'UE. Un Brexit sans accord qui pousse le monde de la finance au bord de la crise de nerfs. On y revient dans le journal de 7h30. Direction le Japon à présent, où Carlos Ghosn a de nouveau été arrêté tôt ce matin. Il pourrait repartir en prison pour un nouveau chef d'inculpation. L'ex-PDG de Renault-Nissan avait déjà été mis en examen pour avoir dissimulé une partie de ses revenus dans des rapports boursiers et pour des transferts suspects liés à un produit financier personnel. Cette fois, le parquet japonais le soupçonne d'avoir détourné de l'argent avec la complicité de l'un des distributeurs de Nissan installés à Oman, au Moyen-Orient. Les précisions à Tokyo de Frédéric Charles.
Les enquêteurs du procureur de Tokyo sont arrivés au domicile de Carlos Ghosn peu avant 6h du matin, heure locale. Une heure plus tard, une bâche grise a été dressée devant l'immeuble. Les chaînes de télévision ont diffusé en direct les images d'un véhicule quittant peu après les lieux. Carlos Ghosn était à bord, a confirmé un journaliste. Le procureur de Tokyo a maintenant 48 heures pour décider s'il inculpe Carlos Ghosn une quatrième fois, s'il le remet en prison ou s'il le relâche dans le cadre de sa mise en liberté sous caution. Mon arrestation ce matin est révoltante et arbitraire. Pourquoi m'arrêter sinon pour me briser ? Dit Carlos Ghosn dans une déclaration. Carlos Ghosn est cette fois-ci soupçonné d'avoir utilisé des fonds de Nissan et de Renault pour des transferts d'argent à un distributeur de véhicules Nissan à Oman. Une partie des montants lui serait revenue.
Frédéric Charles, correspondant d'RFI à Tokyo pour France Culture.
7h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Après la Bretagne hier, Emmanuel Macron se rend en Corse aujourd'hui pour boucler son tour de France des régions dans le cadre du grand débat national. Mais cet ultime déplacement ne sera sans doute pas le plus calme.
La situation s'est encore tendue hier après le refus d'Emmanuel Macron de se rendre avant son débat à l'Assemblée de Corse dirigée par les nationalistes. Eux refusent de monter à Cozzano, ce petit village de montagne où Emmanuel Macron a décidé de rencontrer les maires corses. La coalition nationaliste au pouvoir sur l'île appelle même à une opération île morte en Corse. Bref, ce grand débat se transforme en dialogue de sourds, Camille Cronier.
Pour les nationalistes, Emmanuel Macron a refusé hier bien plus qu'une invitation.
On loupe une occasion de régler définitivement ce qu'il est convenu d'appeler le problème corse.
Jean-Guy Talamoni est catégorique au moment de réagir à ce non du président. À ses côtés, Gilles Simeoni, le chef de l'exécutif corse, prévient.
Le choix actuel qui est fait par l'État est un choix qui ne peut conduire qu'à la stagnation, voire à la régression.
Un retour en arrière que certains craignent sur l'île. Le maire républicain d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, dit attention.
Il y a eu quand même des bombes qui ont été déposées, même si elles n'ont pas explosé, devant des bâtiments publics en début de semaine. Ça doit nous alerter. Nous avons tous une part de responsabilité en tant qu'élus pour faire en sorte que ce que nous avons vécu dans le passé et qui n'est pas quelque chose qui a fait du bien à la Corse, selon moi, ne se reproduise pas.
Les nationalistes assurent que la page de la clandestinité est tournée pour de bon et nient toute logique d'escalade ou de surenchère. Gilles Simeoni.
On peut toujours donner l'impression que l'on formule une sorte de chantage à la violence, ce qui n'est absolument pas mon intention. Mais je pense également que la situation de blocage et d'impasse politique ne peut conduire qu'à exacerber les tensions.
Alors comment débloquer ? Le dialogue, oui, mais le temps aussi, prédit ce maire de Haute-Corse, Jean-Marc Rodriguez, qui se présente comme
un indépendantiste tranquille. On est pressé, mais on ne va pas s'affoler. Je crois que quelque chose de bon peut en sortir si tout le monde devient raisonnable.
Mais qui le sera en premier ? C'est une autre question.
La France s'apprête à interdire 15 modèles très répandus de prothèses mammaires, celles à enveloppe rugueuse, macro-texturées, qui peuvent provoquer des lymphomes à grandes cellules. C'est une information de la cellule Investigation de Radio France avec le Consortium international des journalistes d'investigation. Enquête à retrouver sur franceculture.fr. Je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays. C'est l'ultime message d'Abdelaziz Bouteflika aux Algériens. Au lendemain de sa démission, celui qui a été président pendant 20 ans, dit être fier de sa contribution pour le pays, mais il présente des excuses pour tout manquement à l'encontre des Algériens, précisant que l'erreur est humaine. Alors que le Conseil constitutionnel a constaté hier la vacance définitive du pouvoir, l'avocat Mustapha Bouchachi, fervent défenseur des droits de l'homme, figure émergente de la contestation en Algérie, refuse aujourd'hui que les hommes de l'ancien système confisquent la période de transition politique. La rue et la jeunesse en tête ne l'accepteront pas.
C'est notre jeunesse qui nous a rendu cette fierté. Je pense que c'est prématuré de parler et encadrer ce mouvement. La feuille de route des Algériens, elle est connue. C'est aller vers une période de transition avec un gouvernement d'union nationale. où la société civile, la classe politique sera concertée sur la formation de ce gouvernement. Tout le monde est d'accord sur une période de transition où les symboles du système ne peuvent pas gérer cette période.
La démission d'Abdelaziz Bouteflika est un combat gagné par le peuple, mais pas suffisant. Cet entretien de Nabila Hamel avec maître Mustapha Bouchachi est à découvrir en longueur sur franceculture.fr. Et avant de nouvelles manifestations demain en Algérie pour réclamer la chute de tout le régime au pouvoir depuis 20 ans, la génération qui a grandi sous la présidence Bouteflika se sent aujourd'hui libérée, bien consciente des attentes de l'ensemble de la population pour l'avenir. Trois quarts des Algériens ont moins de 25 ans. Mathilde Dohemi a rencontré quelques-uns de ces jeunes manifestants.
Je m'appelle Nariman, j'ai 22 ans.
Les yeux dans le vague, elle semble un peu perdue au milieu de cette foule heureuse, réalisant à peine que sa génération a poussé le président vers la sortie.
C'est émouvant, on a encore un long chemin à faire et on espère bien avoir... on réussira, Inch'Allah.
Est-ce que c'est un moment historique?
Oui, elle fait partie de ce moment. C'est vraiment touchant.
Mouloud a grandi avec le portrait d'Abdelaziz Bouteflika affiché partout. Au troisième et quatrième mandat, il a poussé son père à sortir voter. Cette fois, c'est mon tour, dit-il.
Moi, je ne peux pas vous dire, je suis avec Zerwal ou avec Karim Tabou. Je ne sais pas, on ne sait rien. On ne fait plus confiance. On a eu peur pendant des années. Personnellement, j'ai connu que Bouteflika et j'en ai marre. Son cadre, on ne le verra plus. On ne verra plus son cadre. C'est une insulte pour nous.
Une génération frustrée. Youssef, 20 ans.
Pour moi, je suis un ingénieur en génie civil. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai fini mes études, mais j'ai aucun boulot, aucun travail. Maintenant, c'est aux jeunes de prendre la relève. C'est aux jeunes de prendre toute l'Algérie.
Des jeunes qui ont changé leur image. Les anciens les disaient résignés, sans ambition. Ils comptent désormais sur eux pour pousser jusqu'au bout le changement.
Le reportage de Mathilde Dehimi à Alger pour France Culture. Le temps de ce jeudi 4 avril, toujours frais, partagé en traverse et éclairci. Au meilleur de la journée, il fera en général de 8 à 13 degrés du nord au sud jusqu'à 19 près de la Méditerranée, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, réussir à l'école, que nous enseignent les pays étrangers.